Il est 7h.
Je me suis promené récemment en ville et j'ai vu des touristes pour la première fois depuis un an et demi. Et j'étais heureux.
Retour à la vie en Italie, tout un symbole, le pays le plus endeuillé du continent par le Covid, donne ce soir le coup d'envoi de l'Euro de football. Nous sommes à Rome dès le début du journal et Virginie Fulpin, vous nous direz ce que vous pensez de cette grande fête qui commence.
On va prendre les choses dans l'ordre. Déjà, il nous rend heureux cet Euro, la crise sanitaire s'éloigne, on est déconfiné, l'Euro commence et la France est favorite. Qu'est-ce que vous voulez de plus?
L'édito sport après le journal, avec aussi l'éclairage écho de Daniel Fortin et votre regard international, Vincent Hervouette.
Emmanuel Macron sonne le repli de Barkhane, mais les forces spéciales vont rester au Sahel. La traque antiterroriste continue.
Sans oublier Stéphane Bern, juste avant 7h30. Bienvenue à tous. Europe 1. Écoutez le monde changer. Le journal de 7h avec Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. C'est un peu la cerise sur le gâteau du déconfinement. À la joie de pouvoir retrouver nos proches en terrasse, au restaurant, s'ajoute à partir d'aujourd'hui la possibilité de communier et de vibrer comme un seul homme. L'Euro de foot démarre ce vendredi avec en ouverture l'Italie face à la Turquie. We are the people. Covid oblige, la cérémonie d'ouverture avec cet hymne officiel « We are the people » sera simplifiée sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome, rouvert au public pour la première fois depuis plus d'un an.
Et la voix de Bono, bien sûr, sur cet hymne officiel. La capitale italienne vit cette journée comme le début d'une renaissance. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Simon Rubin.
À Rome, tout est prêt pour la grande fête. Les écrans fleurissent sur les terrasses en prévision du match. Aux abords du stade, on a disposé les bornes qui prendront la température des spectateurs et les vendeurs ambulants proposent toutes sortes d'accessoires siglés, plus ou moins légalement, Euro 2020. Après un an et demi de Covid, c'est un peu comme si Rome se réveillait d'une longue nuit. Manuel Di Leonardo est gérant d'un hôtel qui vient tout juste d'ouvrir et il savoure.
This is a new beginning for Rome.
C'est un nouveau départ pour Rome. Ça a été une période très très difficile pour beaucoup de monde. Je me suis promené récemment en ville et j'ai vu des touristes pour la première fois depuis un an et demi et j'étais heureux.
Et en centre-ville, une fan zone avec écran géant va ouvrir ses portes d'ici quelques heures sous la supervision de Silvia Badiali.
Évidemment, la place aura un accès limité à cause de la restriction liée au Covid. Chacun peut donc réserver sa place via une application. En tout, nous aurons 2000 personnes.
Pour l'Italie meurtrie par le Covid, donner le coup d'envoi de l'euro à quelque chose de symbolique. C'est le début d'un été différent, espère-t-on ici, le début d'une résilience collective. Rome, Simon Rubin, Europe 1.
Une compétition organisée dans 11 pays. La France disputera son premier match mardi à Munich contre l'Allemagne. Alors où et comment suivre ces matchs en public? Chez nous, dans l'Hexagone, la chose ne sera pas forcément aisée. Un protocole sanitaire a été présenté par le gouvernement pour Europe 1. Marguerite Lefebvre.
À peine on avait publié qu'on avait déjà des appels de différents maires.
La ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, espère avoir convaincu les élus. Ils connaissent depuis une semaine le protocole sanitaire, strict mais pas insurmontable pour Jérémy Bréau, le maire de Bron, la ville de Karim Benzema.
La jauge est limitée à 900 personnes. Pour des questions de sécurité, il faut qu'elle s'inscrive sur Internet et qu'elle respecte les gestes barrières. Donc il y aura un service d'ordre, hein, un service de protection. Il faut que les personnes soient assises. Ça va pas être simple, mais à nous de faire passer les consignes. Vous savez, offrir du bonheur aux gens, ça n'a pas de prix.
À Bron ou à Saint-Denis, on a décidé de se mobiliser dès le premier match des Bleus, ce qui n'est pas le cas de la plupart des grandes villes françaises. À Paris, Lyon, Nice ou encore Strasbourg, on attend le mois de juillet et la levée de certaines restrictions. La fin du couvre-feu, l'autorisation pour les supporters de rester debout, ce qui est tout de même plus simple. Dans toutes ces villes, on avisera donc dans 3 semaines. Pour d'autres, enfin, la décision est déjà prise. Les fan zones sont trop compliquées à organiser et trop risquées. Nîmes et Lens ont fait une croix dessus. À Rennes, la mairie va même plus loin. Les matchs ne pourront pas être diffusés sur les terrasses des bars afin d'éviter les attroupements.
Voilà, on revient sur cet Euro avec Virginie Fulpin dans quelques minutes. Et quoi qu'il advienne, vous pourrez suivre la compétition pendant un mois sur Europe 1, émission spéciale tous les soirs dès 20h avec Lionel Rousseau.
Eux vont se retrouver pour la première fois en personne depuis près de 2 ans, les dirigeants du G7 réunis en sommet jusqu'à dimanche à Cardiff Bay dans le sud-ouest de l'Angleterre.
Avec un potentiel sujet de fâcherie entre l'Europe et les États-Unis, jusqu'à quand les frontières américaines resteront-elles fermées aux ressortissants du vieux continent alors que l'Europe, elle, ouvre ses portes aux voyageurs américains?
Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour.
Cette interdiction de voyage, elle remonte à mars 2020. Elle a été prise par Donald Trump au nom évidemment de la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, alors que la vaccination notamment progresse, elle est très mal vécue par ceux qui ont des proches outre-Atlantique.
Oui, c'est même vécu comme un supplice par certains Français qui n'ont pas pu voir leur famille depuis le début de la pandémie. Car si votre déplacement n'est pas considéré comme étant d'intérêt national par les Américains, inutile d'essayer d'embarquer dans un avion, vous serez refoulé. Elisa a 22 ans, son fiancé vit en Virginie, leur relation se poursuit en visioconférence depuis près d'un an et demi.
C'est frustrant parce qu'on voit que les gens autour en France se retrouvent, peuvent sortir ensemble et nous toujours pas. Le nouveau gouvernement américain n'en a strictement rien à faire. Et invoque des raisons qui n'ont aucune logique, parce que si vous venez du Mexique, de Turquie, vous pouvez directement aller aux États-Unis, alors que pourtant, ils ont plus de cas de coronavirus que nous. Et moi, je ne sais toujours pas quand est-ce que je pourrai aller là-bas.
Elle réclame que les États-Unis appliquent le principe de réciprocité, qu'ils ouvrent à leur tour leurs frontières aux personnes vaccinées, par exemple, et elle espère que les dirigeants de l'Union vont tout faire pour convaincre Joe Biden.
Précision signée Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1.
7h06, c'est un combat qu'il faut mener simultanément sur tous les fronts. Les experts de l'ONU l'assurent, les enjeux du climat et de la biodiversité doivent être considérés comme un tout.
Et pour le prouver, ces experts du GIEC et de l'IPBES ont dévoilé hier un rapport, tout ce qu'il y a de plus concret, avec des exemples de solutions vertueuses, Virginie Selmen.
Oui, des solutions à notre portée, par exemple créer un réseau national de ramassage de compost, comme on ramasse les poubelles, pour ensuite épandre ces épluchures de fruits et légumes, ces restes de cuisine, dans les champs. Ça permettrait à la fois de stocker plus de carbone dans le sol et de recréer de la biodiversité. En revanche, il faut arrêter cette mode de planter des millions d'arbres dans des endroits où il n'y a jamais eu de forêt, explique le docteur Paul Lidley de l'Université Paris-Saclay, l'un des auteurs du rapport.
Une fausse bonne idée, c'est de planter des arbres, mais de planter des arbres dans des endroits où il n'y avait pas d'arbres récemment. Donc, par exemple, au milieu des savanes, qui est parmi des choses qui sont proposées, il y a des choses qui se passent à l'heure actuelle où il y a effectivement ce type de plantation. Et surtout, si c'est fait avec des espèces exotiques, c'est vraiment une fausse bonne idée.
Autre tendance à bannir, selon les experts de l'ONU, cultiver des biocarburants sur des hectares et des hectares, ça appauvrit les sols et, selon eux, on n'a plus de place pour ça sur Terre.
Virginie Selmen.
Votre journal se poursuit dans un instant avec des circuits courts appliqués au textile. La filière longtemps sinistrée retrouve des couleurs dans l'Hexagone. Reportage et explication dans quelques secondes. Il est 7h08.
Europe Matin. Le 7-9. Sébastien Krebs.
La suite de votre journal, Marion Calais.
Et c'est un secteur en plein renouveau. La crise sanitaire avec ses difficultés d'approvisionnement a d'ailleurs amplifié la tendance. L'industrie textile reprend racine en France. On va tenter de mesurer le phénomène dans un instant avec vous. Olivier Samin, bonjour.
Bonjour.
D'abord, direction la Loire. Avec vous, Jean-Luc Boujon, un département qui renoue avec ses traditions industrielles.
Oui, par exemple, dans les monts du Forêt, à Sainte-Agathe-la-Boutresse, où les machines à tisser de l'ancienne manufacture Marcoux-Lafay tournent désormais à plein régime après des années d'activité au ralenti. En fait, tout a redémarré après la reprise en 2020 par deux associés, dont Arnaud de Bellabre, qui développe désormais le Made in France de qualité pour la grande distribution.
Là, aujourd'hui, avec le Covid, avec les difficultés d'approvisionnement, avec les coûts de transport, le souhait qu'on voit chez Kaby, mais aussi chez d'autres, c'est vraiment de reproposer des articles qui sont produits localement. Donc, vous avez la layette qui est produite ici. Vous avez aussi des pulls qu'on va livrer chez Leclerc, chez Carrefour. Et en fait, on sent vraiment une vague de retour du Made in France, de la production locale.
Une tendance lourde, donc, qui se confirme aussi dans le bassin textile de Rouen, explique Eric Boel, patron des tissages de Charlieu, qui vient de signer un gros contrat avec Auchan.
C'est un contrat sur 5 ans de 10 millions de sacs de caisse en tissu qui vont remplacer des sacs en polypropylène qui arrivent d'Asie. Donc, un, on crée des emplois. Deux, on retrouve notre souveraineté qu'on a complètement perdue, on l'a vu au moment des masques. Et trois, on dit par 10 et nos impacts carbone.
Alors pour cela, l'entreprise va investir 22 millions d'euros, notamment en machines. Elle va aussi doubler ses effectifs en recrutant 100 nouveaux salariés dans les deux ans qui viennent.
Olivier Samin, je me tourne vers vous. On entend le potentiel de la filière en matière d'emploi. On parlait là de ce département de la Loire. Est-ce que c'est un exemple isolé ou c'est une vraie tendance de fond ?
Clairement, il y a une tendance. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 2016, l'emploi dans l'industrie textile en France s'est remis à croître après une hécatombe qui a duré 10 ans. Au plus bas, c'était en 2015, on ne comptait plus que 58 000 emplois dans l'industrie textile en France. Aujourd'hui, on est un peu au-dessus de 62 000. La progression est lente, mais elle est bien là, tirée par l'innovation, par les commandes du secteur du luxe, mais aussi par le regain d'intérêt des consommateurs pour le Made in France. Alors, il y a encore du chemin quand on sait que 97,5% du textile d'habillement acheté en France est du textile importé. Mais ce que montrent plusieurs enquêtes d'opinion récentes, c'est que dans le domaine du textile aussi, l'achat responsable gagne du terrain, même s'il faut payer un peu plus cher pour ça. D'où les commandes qui commencent à être passées aux entreprises françaises par la grande distribution. Quand des enseignes comme Kiabi, Leclerc ou Carrefour s'y mettent, c'est que vraiment, ce n'est pas un phénomène de mode.
Une tendance marquée, donc, dossier signé Olivier Samin, Jean-Luc Boujon. Et puis, deux rendez-vous aujourd'hui, les demi-finales hommes de Roland-Garros avec Zverev, Tsitsipas et aussi l'affrontement entre Raphaël Nadal et Novak Djokovic.
Quelles affiches, et on sera à Roland-Garros, bien sûr. Le journal de Roland-Garros, c'est chaque matin, juste après le journal de 8h. Marion Calais, merci à vous, il est 7h11.